Bonsoir, comment allez-vous? Ici à Paris, la Seine a bien monté. Le zouave a de l'eau jusqu'à la culotte. Et c'est super stressant de voir cette eau monter parce qu'on ne peut pas l'enlever. On peut juste la détourner. Et comme disait un monsieur qui installait un bâtard d'eau, si on bloque le fleuve ici, il sera encore plus gros là-bas. Tout aussi stressant, l'eau qui vient du toit, à positionner des bassines sous les fuites, ce n'est rigolo que dans les dessins animés. Et pourtant, un des plus grands drames qui plane sur notre planète, c'est le manque d'eau. L'eau n'est pas la seule à provoquer, vous savez, le pire et le meilleur. Prenez le feu. Quoi de plus sympa qu'un feu de cheminée? Et quoi de pire qu'un incendie? Et la nourriture? Là encore, le manque et l'excès sont horribles. Même phénomène pour l'amour. Un enfant trop aimé comme un enfant mal aimé est en souffrance. Est-ce possible de recevoir trop d'amour? Non, s'il y en a trop, c'est que c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Mais dans la possession, y a-t-il quand même de l'amour? Ben, c'est compliqué, c'est mélangé, c'est trouble. Comme dans un verre de boue, où il y a de l'eau. N'empêche que quand on a soif, c'est d'un verre d'eau dont on a besoin, pas d'un verre de boue.
Bonjour, je m'appelle Sarah, je voudrais savoir pourquoi l'eau des rivières sont sales. Merci, au revoir.
Sarah demande, Jérôme Gaillardet, vous êtes agrégé de sciences naturelles, professeur à l'Institut de physique du Globe de Paris. Sarah pose une question d'observation peut-être, pourquoi l'eau des rivières est sale?
Oui, merci Sarah de cette question très intéressante, beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraît. L'eau n'est pas sale, elle contient des particules qu'elle a emportées, que les eaux de ruissellement ont emportées avec elle lorsque la pluie s'est abattue un peu fortement sur un versant ou qu'un glissement de terrain s'est produit. On a l'impression que l'eau est sale, mais c'est un phénomène totalement naturel, que les scientifiques appellent l'érosion. C'est ce processus avec lequel les petites particules, la terre, on pourrait dire, en langage commun, eh bien, est charriée des terres vers les mers. Et ce processus est un processus fondamental de la planète. La planète Terre est la seule planète du système solaire qui sait faire ça, déplacer des matériaux qu'elle a pris au continent, aux montagnes, qu'elle a arrachées pour les transporter jusqu'à l'océan. Et c'est un mécanisme qui est fondamental. Sans ce mécanisme, les montagnes ne cesseraient de pousser. Elles ne seraient pas limitées. Les montagnes existent parce qu'il y a deux forces en concurrence. La tectonique des plaques qui les fait monter, et puis cette érosion qui est responsable du fait que les rivières sont sales, comme dit Sarah, qui les use et les empêche de devenir trop grandes. Donc ce mécanisme est un mécanisme fondamental pour la planète. Alors certes, les rivières sont sales, mais j'ai envie de dire heureusement qu'elles sont sales, ça prouve que la planète est vivante. Il faut ajouter que c'est un processus, cette érosion, qui n'est pas un processus continu. Il ne se produit qu'à certains événements extrêmes. Par exemple, si vous êtes aux Antilles et que vous avez la chance ou la malchance de tomber sur un cyclone, vous allez voir les rivières qui d'habitude sont magnifiques, dans lesquelles on aime se baigner, deviennent tout à coup, et pour quelques heures seulement, noires, brunes. Et donc, vous n'avez plus absolument plus envie d'y mettre les pieds. Elles deviennent totalement infréquentables.
D'accord. Donc, ce marron qu'on voit, on ne parle pas des pots de yaourt et des pique-niqueurs. Hein, c'est un
on autre pourrait débat. Aussi parler non, des pots de yaourt. C'est moins
votre domaine, déjà.
Poétique et c'est moins mon domaine. Mais c'est vrai que de plus en plus, l'homme a sali certaines rivières d'une manière un peu trop importante.
Jérôme Gaillardet est agrégé de sciences naturelles. Il est professeur à l'Institut de physique du Globe de Paris. Dans les petits bateaux, ce soir, nous saurons pourquoi les éléphantaux n'ont pas de défense, pourquoi les histoires commencent par « il était une fois » et à quoi sert la salive. Toutes ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Alain. J'aimerais savoir pourquoi on appelle certains peintres les impressionnistes. Au revoir.
Bonsoir Alain. Pascal Torres, vous êtes conservateur en chef au Musée du Louvre et écrivain. Alors, cette histoire d'impressionniste, demande Alain.
Bien Alain, on appelle des peintres les impressionnistes parce que un critique d'art qui s'appelait Louis Leroy a écrit dans une revue qui s'appelait le Charivari, exactement le 25 avril 1874, un article dans lequel il voulait se moquer de peintres qui sont pour nous aujourd'hui des peintres extraordinaires, parmi les plus grands peintres de la modernité, dont Claude Monet, Manet, Degas, Cézanne, Pissarro, Sisley, etc. Wow. Il a voulu se moquer d'eux parce qu'il ne comprenait pas leur art et il dit dans son article un truc qui est aussi bête que critique, hein. C'est, faut voir, c'est pas une personne stupide, mais c'est une personne qui était polémique à l'époque. Enfin, dans cet article, il disait « Ah, je me disais aussi, hein, puisque je suis impressionné par ce tableau, il doit y avoir de l'impression là-dedans. » parce que eux-mêmes cherchaient à traduire sur la toile leurs impressions. Et ben du coup, les artistes impressionnistes ont repris le terme impressionniste pour dire oui, nous sommes des impressionnistes. Et l'impressionnisme, eh bien, c'est véritablement l'un des moments artistiques les plus parfaits, les plus incroyables de la modernité. Alors il y avait un tableau particulier qui a permis, dans cette exposition de 1874, à Monsieur Leroy de parler de cette impression. Un tableau qui lui sortait par les yeux, on peut le dire, en faisant un jeu de mots, choqué monstrueusement, qui l'a impressionné, on va dire, comme
ah,
il l'a dit.
Ouais.
Et c'était Impression, Soleil levant, de Monet, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture universelle, qui est conservé au musée Marmottan à Paris, peint en 1873, et qui présente donc les impressions au soleil levant, cette petite barque merveilleuse, dans un fond bleu avec une percée de orange vif et de rouge vif qui est le lever du soleil. Et c'est ce tableau qui l'a encore plus choqué que le grand chef-d'œuvre de Cézanne qui était là, qui était la Maison du Pendu par exemple, et qui a provoqué cette polémique très drôle dans la presse, dans le Charivari, qui a donné naissance ou officialisé le nom impressionnisme.
Donc en fait, il a voulu, ce critique, blesser les peintres. Et les peintres n'ont pas été blessés, ils ont dit non, on assume, impressionniste, voilà.
Non seulement on l'assume, mais finalement, oui, je crois que ce monsieur a compris.
Ce que vous racontez, Pascal Thorez, ça me fait penser à la météo, vous savez, on dit il va faire tant de degrés, mais en ressenti.
il va faire plus froid ou plus chaud.
Donc ce qui compte, c'est ce qu'on ressent, c'est pas la vraie température.
Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'au-delà du ressenti, c'est dire qu'il y a une part de mort dans tout langage. Lorsque je regarde quelque chose, lorsque je prétends peindre une chaise ou une maison, bah, c'est une peinture d'une maison. Pensez à Magritte qui dit « ceci n'est pas une pipe » lorsqu'il la dessine. C'est la peinture d'une pipe. Eh bien, oui, la réalité n'est pas que la vision, elle est aussi des odeurs, elle est aussi le temps qui passe. Voilà, ça c'est le début de la modernité.
Pour passer un moment avec ces impressionnistes, vous pouvez lire la biographie de Berthe Morisot de Dominique Bonnat, qui est en livre de poche. Berthe Morisot, comme son nom l'indique, est une femme impressionniste, amie de Degas, élève de Manet, dont elle a épousé le frère. Et en lisant ce livre, on se rend compte à quel point les impressionnistes ont été moqués, effectivement, mais également, mais tellement violemment, cruellement, méchamment, bêtement critiqués, ces impressionnistes qui vendaient si peu et qui valent si cher maintenant.
Thank you.
Avec ses intonations un peu années 70 entre Françoise Hardy et France Gall, Junior, c'est un groupe de filles avec à sa tête Anna Jean, qui est la fille, pas Junior, ça n'existe pas la fille Junior, la fille cadette de l'écrivain Leclésio. Et le nom de ce titre, c'est Extralucide.
Les petits bateaux sur France Inter.
C'est la première fois que le docteur Baptiste Beaulieu vient au petit bateau.
Bonjour, je m'appelle Elinor, j'ai 6 ans et je voudrais savoir à quoi sert la salive.
Bonsoir Aliénor, nous avons proposé ta question à un médecin, tu t'en doutes. Docteur Baptiste Beaulieu, vous êtes médecin, vous êtes également écrivain. Vous venez d'écrire avec Dominique Mermoux « Les mille et une vies des urgences » et c'est aux éditions Rue de Sèvres. À quoi sert la salive, demande Aliénor.
Eh bien bonjour Aliénor. Alors la salive, il faut d'abord que tu saches que rien n'est anodin dans la salive. La salive, elle sert à beaucoup, beaucoup de choses. Elle sert à la diction. Elle sert aussi à la lutte contre la formation des caries. Elle sert aussi à la digestion des aliments. Mais surtout, il faut que tu saches que les glandes salivaires, que les petites glandes que tu as au niveau, sur le côté de la bouche, elles sécrètent jusqu'à 2 litres de salive par jour. Donc tes dents, elles baignent littéralement dedans. Ensuite, ce qu'il faut que tu saches et qui est très intéressant, c'est que elle a tendance à se tarir un petit peu la nuit, cette sécrétion de salive, ce qui fait que, et c'est bien pensé, le matin quand tu te réveilles, ton premier réflexe sera d'aller boire de l'eau. Également, elle est riche en une petite enzyme qui s'appelle l'amylase. Et cette amylase, elle sert à découper les petits morceaux de sucre qu'il y a dans les aliments, à transformer ces petits morceaux de sucre en nutriments qui seront absorbés un peu plus tard. Et surtout, elle va permettre d'humidifier ta nourriture et permettre la création de ce qu'on appelle le bol alimentaire, qui est une sorte de petite boulette d'aliments humidifiés et qui va pouvoir coulisser beaucoup plus facilement le long du tractus digestif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont on te parlait, c'est l'importance de la salive dans la capacité à refroidir les aliments trop chauds ou à réchauffer les aliments trop froids. Tout est bien pensé et la salive est tellement passionnante que on peut même penser que dans quelques années, on arrivera non plus à ne plus faire de prise de sang et à seulement regarder dans la salive ce qui nous intéresse, parce que on pourra, par exemple, on le fait déjà aux États-Unis, par exemple, faire des tests de dépistage pour certaines maladies virales, pour certaines hépatites, par exemple, également rechercher des anomalies du système immunitaire juste avec une analyse du crachat de la personne.
Alors, docteur Baptiste Beaulieu, deux questions. Quand on se coupe, on a un petit peu tendance à l'échoter, à susauter sa plaie. On a l'impression que si on n'a pas de désinfectant, ça fera l'affaire.
Bien sûr. Écoutez, ça, c'est un réflexe très primitif et qui tient probablement au fait que la salive, elle est pleine d'enzymes. Et donc, dans ces enzymes, il y a probablement aussi des substances capables d'arrêter les bactéries ou d'arrêter les virus. Évidemment, ce n'est pas valable avec toutes les salives. C'est-à-dire que si on a une petite plaie et qu'on se fait l'échouiller par un chat ou un chien, par exemple, l'affaire ne sera pas du tout la même.
D'accord, vaut mieux pas.
Non, pas du tout même.
Deuxième chose, vous le savez probablement pas, mais quand nous nous maquillons et que notre tube de rimmel est un peu sec, on crache dedans. C'est vraiment infect, c'est vraiment...
Non, je pense pas. Vous savez, comme théoriquement, comme tous les liquides de l'organisme, c'est stérile. Après, évidemment, comme c'est dans la bouche et qu'on y met les aliments, qu'on y met parfois les doigts, la stérilité de la salive, elle est pas non plus absolue.
Et enfin, vous avez dit tout à l'heure, docteur Baptiste Beaulieu, ça sert pour la diction. Si nous n'avions pas de salive, nous parlerions moins bien?
Alors, c'est pas qu'on parlerait moins bien, mais ce serait beaucoup plus difficile parce que la langue serait toute sèche, tout simplement, et que du coup, elle taperait contre le palais et qu'on entendrait vraiment beaucoup moins bien. Et notre capacité à utiliser la langue pour certaines lettres, comme les chuintantes, serait plus compliquée, par exemple.
Merci donc, docteur Baptiste Beaulieu. C'est probablement pour ça qu'on nous recommande de bien mâcher, y compris ce qu'il y a de liquide. Si vous buvez un verre de jus d'orange, il ne faut pas le boire glop, il faut le mâcher.
Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai 6 ans et j'aimerais savoir pourquoi les histoires commencent souvent par « Il était une fois ». Merci, au revoir.
J'allais dire, Esther, pour compléter ta question, les histoires de la littérature orale, c'est la littérature dont vous vous occupez, Bernadette Bricou. Il était une fois, demande Esther, pourquoi ?
Alors, il était une fois, nous signale, et ça existe dans toutes les langues, avec évidemment des formes différentes, sous des formes différentes, que l'on entre dans un conte, c'est-à-dire dans une histoire qui, à la différence de la légende, va se situer dans l'imaginaire. Il était une fois, le rideau se lève sur un monde qui a ses propres lois, qui a ses personnages, qui a ses parcours et ses épreuves, et ses lois ne sont pas celles du monde ordinaire. Voilà, tu entres avec moi, Esther, dans un récit, et ce récit, il échappe tout à fait aux lois du monde réel, mais il a des lois.
Ce qui est sidérant, Bernadette Bricout, c'est que dans les autres langues, c'est la même chose. Les Chinois commencent leur conte par « Il était une fois ».
Alors, c'est pas « Il était une fois » et je vous le donnerai pas en chinois, mais regardez pour des langues qui sont plus proches de nous, en tout cas pour l'Europe occidentale, « Once upon a time »,« Es war einmal », le « Il était une fois » a un équivalent dans toutes les langues. On ouvre, on lève le rideau, si vous voulez, sur une autre scène. Et à la fin, en règle générale, on va souvent avoir dans les contes de tradition orale une formulette qui permet de baisser le rideau. J'ai passé par l'arrêt du blé et voilà mon conte achevé. La souris a fait cuit-cuit-cuit et voilà, le conte est fini. Ou bien Cendrillon a épousé son prince, il y a eu un mariage à tout casser, les petits cochons se promenaient tout rôtis par les rues, en coupaient qui voulait. Et moi-même, eh bien, on a distribué des dragées, j'ai reçu une boîte de dragées et vous pourrez en manger quand vous viendrez à la maison. Et là, ça veut dire que le conte est fini et qu'on revient au monde réel. Vous voyez, c'est comme une île.
J'aime bien comme ça, ces traditions qui nous servent de repères. Merci, merveilleuse Bernadette Bricout. Il y a parfois des classements dans la vie qui sont un peu sots et un peu réducteurs. Êtes-vous thé ou café, mer ou montagne, slip ou caleçon, Beatles ou Rolling Stones? On a envie de dire, mais les deux, en général. C'était les Rolling Stones, mais la prochaine fois, nous vous passerons les Beatles dans les petits bateaux sur France Inter. Avez-vous déjà accouché d'un éléphant? Non, moi non plus.
Bonjour, je m'appelle Vladimir, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi les éléphants tôt, naissent, ils n'ont pas de défense. Merci.
Les éléphantaux naissent, ils n'ont pas de défense, demande Vladimir. Docteur Brice Lefaux, vous êtes vétérinaire, directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Est-ce vrai?
Ah oui, Vladimir a raison. Lorsqu'ils naissent, ils n'ont pas de défense. Comme nos enfants n'ont pas de dents. Mais après, quand ils grandissent, est-ce qu'ils ont ou pas des défenses? Et c'est là où la question devient intéressante. Parce que dans les éléphants d'Asie, il y a des éléphants qui, naturellement, n'ont pas de défense. Donc, dans la population, il y a à peu près 10 à 15%, soit des femelles, soit des mâles, même des mâles, des fois, qui n'ont pas de défense. Et c'est normal. Hein, il y a des individus qui n'ont pas de défense.
D'accord.
Les défenses, ce sont les incisives. Ce sont les dents de devant. Et chez l'éléphant, il y a les deux dents de devant, les deux incisives supérieures, qui se transforment en défense. Il y a une première défense qui est la défense de lait, comme la dent de lait. Elle tombe et après, il y a la défense définitive. Et cette défense définitive, elle va pousser de façon permanente.
Ah bon, comme les ongles?
Comme les ongles, exactement. Et malheureusement, parce que c'est le grand malheur, ça attire énormément les braconniers. Ils tuent l'animal pour pouvoir récupérer les défenses qui sont en fait de l'ivoire. La dentine qui recouvre cette dent, très particulière, forme l'ivoire. Et c'est un produit de luxe qui est vendu au marché noir, parce que tout ça est illégal, et qui a comme conséquence un très 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 grand nombre d'éléphants qui sont tués, parfois très jeunes, pour récupérer quelques kilos d'ivoire. Comme par exemple, entre 2000 et 2012, il y a eu 140 000 éléphants qui ont été tués. Donc il reste à peu près en Afrique moins, à peu près un demi-million d'éléphants, un peu moins, même 400 000. Donc il faut imaginer l'impact que le braconnage a sur ces populations d'éléphants. Et je vais aller plus loin. Il se trouve, et c'est pour ça que cette question est intéressante, c'est qu'aujourd'hui on appelle les éléphants qui naissent sans défense. C'est-à-dire qu'en Afrique, où la proportion d'éléphants sans défense était très faible par rapport aux éléphants d'Asie, eh bien en Afrique, on a aujourd'hui des lignées sans défense. Et alors c'est là où la nature est belle, c'est qu'en fait, l'homme, par le braconnage, semblerait, parce que tout n'est pas encore prouvé, sélectionner des lignées qui n'ont pas de défense. Puisque les femelles, c'est surtout les femelles, hein, qui n'ont pas de défense, eh bien, ma foi, n'ont pas d'intérêt à être chassées. Il faut savoir que la défense est vitale pour l'éléphant, parce qu'elle lui permet, oui, de se défendre, c'est pour ça qu'on l'appelle défense, mais elle se permet aussi de s'accrocher quand ils doivent aller manger les branches dans les arbres. Et puis, il lui permet aussi de pouvoir creuser pour aller chercher de l'eau. Donc, c'est des éléments qui sont très importants. Et on ne connaît pas encore l'impact de cette évolution qu'on est en train d'impliquer ou d'infliger aux populations d'éléphants. Dans les zones où il n'y a pas trop de braconnage, là, les éléphants peuvent grandir. Les grandes défenses n'existent plus. Hein. Les grandes défenses de 2,50 m, il y a très peu d'individus qui en portent aujourd'hui parce qu'ils ont été chassés, malheureusement. Et pour aller un tout petit peu plus loin sur la question de Vladimir, il faut savoir aussi que l'éléphant n'a pas beaucoup de dents. Il n'a qu'une seule molaire sur chaque émi-mâchoire. Donc ça fait 4 molaires. Et ces molaires-là changent 5 à 6 fois dans sa vie. Donc ce qui fait en fait qu'il a 2 incisives et 6 molaires. Ça ne fait pas beaucoup.
Elles sont grosses comment, leurs molaires? Comme votre poing?
Non, ça va être beaucoup plus grand que ça. Ça va faire jusqu'à 45, 30 à 40 centimètres une fois, quand c'est les dernières molaires. Hein, la sixième est vraiment très très grande. Hein, oui.
C'est pas de l'ivoire, les molaires?
Alors, c'est pas la même ivoire, non. C'est moins bien, effectivement, c'est ça. C'est plus proche de... C'est l'évolution de la dentine de la défense qui a fait l'ivoire.
Parce que j'allais dire, on pourrait récupérer la molaire une fois qu'elle est tombée.
Alors non, elle se casse. Il n'y a que les premières molaires qu'on arrive à trouver chez les éléphantaux. Et après, les suivantes, c'est une pousse qui est un peu particulière. Mais c'est pas une dent qui tombe. C'est la dent qui est en dessous qui va pousser, en fait, la dent qui est au-dessus, qui va s'abraser parce qu'il mange des branches. Donc, il ne va pas arrêter de s'user jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus rien.
Ah, oui.
Et après, la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième pousse derrière. Allez. Et c'est pour ça que les éléphants ne peuvent pas vivre plus longtemps. Parce que, une fois que la sixième est sortie,
il
n'y en a plus. Et quand elle est usée. Ils ne peuvent plus manger.
Ah, c'est le début de la fin. Ça peut vivre combien de temps, un éléphant, docteur Bruce?
60 ans. Ouais, plus de 60 ans.
On ferait bien mieux de prendre un éléphant plutôt qu'un chien, comme ça on serait en deuil moins souvent. Pour le petit popo du soir, le sac en plastique sera un peu juste, mais bon. Ce n'était pas très gai cette histoire d'éléphant. Allez, plus joyeux, vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr ou bien dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Marjorie Devoucoux, Eliane Gérard, Noël Bréham pour les filles, Jean-Baptiste Audibert et Pierre-Yves de Rolin pour les garçons. Et pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulle, mon petit loup.